Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler plutôt côté client. Et malgré tout, je vais vous expliquer pourquoi on a fini par utiliser Azure également à la fin pour résoudre un problème d'un petit serveur qui est tombé parce qu'on faisait les radins à héberger notre site sur un petit serveur. Donc je me présente, je m'appelle David. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Davrous. Et donc moi, je m'occupe de faire beaucoup de HTML5 et de suivre les projets de jeux vidéo sur Windows Phone et Windows Store. Et du coup, quand vous prenez mes deux passions préférées, que sont HTML5 et le jeu vidéo, et je me suis dit, autant faire du jeu vidéo à base de HTML5. Et donc, on a écrit un petit moteur WebGL. Alors, il faut savoir que c'est sur notre temps libre avec quelques copains. On est deux développeurs, on va dire, front sur Babylon.js. On a un graphiste, je ne sais pas s'il est là, qui est merveilleux. C'est génial, un graphiste. Et quelqu'un qui nous aide sur la partie back. Et donc, comme on est chez Microsoft, les gens pensent que c'est un projet Microsoft officiel, mais ça ne l'est pas. C'est un projet perso pour le plus grand plaisir de ma femme que j'aime. Alors, je remercie nos sponsors, sans qui on ne pourrait pas faire ce genre d'événement. Et j'insiste plus longtemps que Stéphane, je trouve qu'il a été un petit peu méchant, accéléré sur le slide. Donc, ce qu'on va voir, c'est une présentation du moteur de jeu pendant 15-20 minutes, et pourquoi Azure nous a aidés à préparer un projet qu'on devait lancer, et comment on a basculé notre hosting dans Azure et ce qu'on a mis en place. Alors, WebGL d'abord. Alors, qui est développeur HTML5 JavaScript dans la salle? Et pas beaucoup. Donc, les autres, vous êtes plutôt back, c'est ça? Donc, WebGL, c'est une API qui, en gros, vous donne accès au GPU à travers un sous-ensemble d'OpenGL. Depuis JavaScript, et vous allez dessiner dans un canvas, le canvas HTML5. Comme vous allez voir, on peut faire des trucs très très chouettes maintenant dans le navigateur. Et WebGL, c'est super bien, mais en gros, lorsque vous allez discuter avec les pros de la 3D, ça permet simplement d'accélérer la manière de dessiner des triangles à l'écran. Alors, je sais pas vous, mais moi, je rêve depuis tout petit de faire de la 3D. Et lorsqu'on vous explique qu'en fait, pour faire de la 3D, il faut savoir dessiner des triangles très très vite avec des calculs matriciels, etc. Rapidement, vous êtes déprimé, vous dites, bon, finalement, je vais retourner faire mon logiciel de gestion sous Access. Hein, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais petit. J'ai laissé tomber la 3D. Tout ça pour dire que c'est compliqué finalement la 3D parce qu'il y a des notions de shader. Donc, shader, c'est des petits morceaux de programme qui vont discuter avec le GPU qui ressemble à du pseudo-C. C'est un langage très spécifique où on l'avait discuté avec le GPU et on a accès à ça en JavaScript. Travailler sur la géométrie, les textures, la boucle de rendu, etc., etc. Et finalement, même si WebGL vous aide, puisque c'est normalisé, standardisé par le groupe Chronos pour discuter avec le GPU, et vous avez énormément de plomberies à gérer. Quels sont les navigateurs qui sont compatibles? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive chez nous à partir de Internet Explorer 11. Chrome et Firefox, ça faisait un moment qu'ils avaient commencé l'implémentation. Et Opera, maintenant, étant basé sur le moteur Blink de Chrome, là également. Donc, la façon dont vous le faites, c'est si jamais vous avez déjà fait de la 2D, comme on l'a vu tout à l'heure avec Julien pour dessiner son graphe, mais en fait, il y a un canvas. Vous récupérez un contexte 2D et vous dessinez dans un canvas 2D. Alors, on aurait pu se dire que pour faire de la 3D, on aurait pu faire un get context 3D. Mais non, c'était pas assez amusant. On s'est dit plutôt, faisons WebGL ou expérimental WebGL. Donc, quand vous voyez expérimental WebGL, ça veut dire, on supporte le truc, mais on promet pas que ça casse pas lorsque tu vas l'utiliser. Voilà. Donc, ça doit être avec des termes différents en anglais sur l'aspect, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Alors, pour utiliser Babylon.js, vous allez soit sur notre site web pour le tester. Je crois que vous avez vu notre expérimentation Oculus aussi, pour ceux qui ont pu jouer avec Oculus. Donc, c'est basé sur notre moteur. Et on a tout mis sur GitHub en licence Apache 2. Donc, vous pouvez forker le code, le péter, vous amuser, etc. Vous pouvez aller lire le code avant de nous poser des questions aussi. Ça, c'est assez cool, hein, parce que je découvre la gestion merveilleuse d'un projet open source où personne, finalement, va lire le source code. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, finalement. Allez lire le source avant de poser des questions, s'il vous plaît. Et puis, comment s'en servir? Vous référencez le script Babylon.js qui fait 300-400 kilos quand même minifié, compressé. Enfin, minifié, surtout. Et dedans, il y a tout. Et vous faites New Babylon Engine. Et c'est parti. Ça va être super cool. Alors, il y a quoi dedans? Si vous faites un peu de 3D, enfin si vous avez déjà entendu parler de 3D, vous êtes déjà entendu, j'imagine, de 3D Studio Max, même si vous n'êtes pas un cadre de la 3D, un logiciel pas cher, hein, pouvez-vous procurer facilement. Et si vous n'avez pas d'argent, vous avez la version gratuite open source qui s'appelle Blender. Et en fait, on a commencé par viser ces deux logiciels-là où vous allez pouvoir concevoir avec un graphiste 3D ou quelqu'un qui fait des jeux vidéo ou autre, hein, parce qu'on n'est pas obligé de s'en servir que pour les jeux vidéo, il va concevoir son modèle et il va l'exporter dans notre format. Donc notre format qui est basé sur un système JSON. Donc là, on a travaillé pour faire des exporteurs. Donc c'est rigolo, c'est en Python dans Blender, vous pouvez le faire en C# plus ou moins dans 3D Studio Max. On a un système de collision tout simplement pour, bah, quand je me malade comme dans une salle comme celle-ci, de ne pas passer à travers les murs. Bah, ça nécessite des calculs, on les fait pour vous. On a un moteur physique basé sur un autre moteur open source qui s'appelle CanonJS. Peut-être qu'on changera d'ailleurs, mais on a fait un système de plugin pour s'amuser. On a un système offline basé sur IndexedDB. Donc on parlait tout à l'heure de bases de données type NoSQL. Bah, il y en a une standardisée côté client en HTML5 qui s'appelle IndexedDB. Donc on s'appuie dessus finalement pour stocker nos textures et notre géométrie. Et on a fait pas mal de trucs sur les optimisations réseau, etc. dans le moteur. Voilà en gros ce qu'il y a dedans. Donc pour vous simplifier la vie. Comme on démarre et qu'on se dit aujourd'hui tout le monde a des périphériques mobiles, des tablettes, il faut supporter le touch. Il faut savoir qu'il y a deux spécifications touch qui existent aujourd'hui. Il y en a une qui a été créée à l'origine par Apple pour l'iPhone, s'appelle les touch events, mais qui pendant longtemps était plus ou moins bloquée comme spécification parce qu'il y avait des notions de brevet dedans. Et même si les autres ont fait du reverse engineering, on n'était pas sûr qu'il n'y ait pas un coup de brevet et d'argent dedans. Donc on a créé notre propre spécification qu'on a mis directement au W3C, qu'on a appelé Pointer Event. Sauf que bah, du coup, on s'est retrouvé, comme d'hab, hein, quand vous faites du web, avec deux spécifications à supporter. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite librairie qui s'appelle NJS, qui fait une abstraction de tout ça, et qui permet en fait du coup de viser tous les périphériques touch, en simulant le modèle Pointer Event que nous avons créé chez Microsoft et qu'aujourd'hui une spécification standard. Donc du coup, on peut toucher tous les périphériques, enfin les browsers côté desktop, et également tous les navigateurs mobiles. Alors, on peut avoir du WebGL sur Android, faut plutôt installer Chrome hein, que le navigateur par défaut, et ça dépend de votre téléphone, s'il est assez récent, ça plante pas, sinon ça peut le faire redémarrer. Firefox OS commence à avoir un support qui est pas mal de WebGL. On a un très bon support WebGL qui arrive avec Windows Phone à partir de la 8.1. Vous pouvez le tester en développeur preview. Et ce qui est super comme nouvelle, c'est que Apple a annoncé l'arrivée de WebGL sur à la fois Safari 8 et également à Safari, non pas 8, je ne sais plus lequel. En tout cas, iOS 8, ils auront le support de WebGL à la fois dans le navigateur et à la fois dans le WebView. Donc on va pouvoir faire plein de trucs cool sur tous les périphériques. Alors le processus de création, bah, soit vous partez de Blender et vous prenez notre plugin qui va exporter vers Babylon, c'est ce qu'on va voir. Soit vous avez 3D Studio Max, là c'est plutôt si vous travaillez avec un studio, quelqu'un qui a les moyens de s'acheter 3D Studio Max, il va produire directement du fichier Babylon. Et là, vous allez voir que nous, dans Babylon, on gère à la fois la caméra, les lumières, la physique, les animations, ça va être exporté directement. Ça peut créer des formats de fichiers qui s'appellent FBX et OBJ, qui sont connus dans le monde de la 3D. On a un convertisseur en ligne qui les prend, qui vous les convertit. Vous avez un petit programme en batch sur votre PC qui peut le faire. Une fois que vous avez votre fichier Babylon, bah soit vous voulez le voir à l'écran. Si vous êtes graphiste, on a fait ce qu'on va avoir une petite sandbox. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Si vous savez coder, bah vous allez utiliser les outils classiques, Visual Studio, Sublime Text, Notepad++, votre éditeur préféré, pour pouvoir finalement coder ça en JavaScript HTML. Et bah, regardons tout ça. Et regardons la première partie. Imaginons que je ne suis pas développeur, comme mon ami Michel Rousseau, qui est mon designer 3D. Malheureusement, je ne suis pas designer 3D, donc en fait, ce que je vais faire en 3D va être horrible, rapidement. Donc en fait, mes compétences s'arrêtent à peu près là. Alors pourquoi je fais une tête de singe? Parce que je trouve ça impressionnant en soirée. Et l'avantage, c'est que c'est une fonction prévue dans Blender. C'est faire une tête de singe. Et du coup, on peut en mettre plein. Bon, rapidement, ça devient chiant hein, d'avoir que des têtes de singe. Mais donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir la tête de singe. Sur les différents éléments, on a rajouté aussi des extensions à Blender spécifiques à notre format. On va pouvoir avoir la possibilité... Je retrouve la propriété qui est ici. D'activer les collisions, de dire par exemple ce cube je veux pas passer à travers, d'utiliser d'autres types de propriétés. Et en fait vous faites un peu vos courses, vous pouvez également activer la physique, ce genre de choses. Et une fois que vous avez terminé votre travail, vous allez faire export vers Babylon.js, qui est donc notre format de fichier, donc le point Babylon. Je l'enregistre quelque part, donc là sur Azure Webcamp, hop. Et ça génère du JSON. Hop, qu'on peut voir ensemble. Alors à nouveau, c'est pas très passionnant, hein, mais vous pouvez aller le voir. Et c'est surtout que le designer, qu'est-ce qu'il va demander? Il va vouloir l'afficher. Alors au début, en fait, vous allez voir que dans le code, c'est extrêmement simple de générer une scène. Mais pour un designer, même s'il y a 3 lignes de JavaScript, c'est la fin du monde. Donc on avait des milliers de questions sur le forum en disant c'est trop compliqué. Donc je me suis dit, je crois que les designers, ils savent drag and dropper, il me semble, de mémoire. Alors j'ai un profond respect pour les designers, même si ça ne se voit pas actuellement. Donc en fait, je me suis dit, bah, tu vas prendre tes textures et ton format de fichier. Et en fait, quand on a le support des drag and drop APIs en HTML5, on peut charger des fichiers en HTML5, drag and drop, et en fait, je vais afficher directement le modèle avec la physique activée. Là, on voit le cube qui rebondit. J'ai chargé ses textures. Et du coup, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est se dire, bah, attends, j'aimerais bien rajouter du coup, une petite tête de singe. Hop, je vais la mettre à côté de l'autre. Ici. Je vais la réexporter. Je recommence. Non, je ne lance pas Outlook. Hop. Vous n'êtes pas obligé de lancer Outlook, hein. Et je refais drag and drop. Et j'ai une autre tête de singe qui est là. Voilà. Alors, quelques heures plus tard, ça donne ce genre de truc. Lorsque vous travaillez avec un designer qui sait bosser, il vous génère plein de trucs. Vous ne comprenez pas toujours d'ailleurs les textures qu'il vous génère, hein, mais il faut leur faire confiance. Et vous allez voir, c'est peu ou prou ce que je viens de faire. Il vous refait la scène de retour vers le futur, donc c'est sympa. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau performance, on est. Alors là, je suis capé à 50, 60 images secondes parce que je suis sur batterie là, mais on atteint facilement les 60 images secondes sur une machine qui est assez modeste. Donc on pouvait le tester dedans. Alors bien sûr, souvent on nous dit, on vous connaît les mecs de chez Microsoft, à tous les coups, ça marche que dans IE. Alors souvent, j'ai noté, hein, en tournant un petit peu, que les gens ont tendance à utiliser ce navigateur. Donc ça marche aussi dans Chrome, bien évidemment. Alors, il est peut-être un peu plus lent à charger, mais bon. Donc ça marche bien. Alors, en fait, j'exagère puisque j'ai deux navigateurs qui tournent en même temps. Et ça tourne également, bien sûr, sur nos amis de chez Mozilla. Donc tout ça tourne de la même façon. Et donc l'air de rien, je dois avoir un truc avec Outlook. L'air de rien, c'est particulier quand même de supporter tous les navigateurs. C'est beaucoup de boulot au niveau des shaders. Même si maintenant les standards sont respectés par tout le monde, vous savez toujours qu'il y a des légères différences et quand même bosser. Et nous, on garantit que ça marche partout pour supporter toutes ces plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà la première façon d'utiliser finalement notre moteur sans aucune ligne de code. On s'est occupé de tout. Bon, ensuite, je vous connais, vous aimez bien coder un petit peu. Ça tombe bien, moi aussi. Hop. Donc on va partir d'un projet assez simple qui va charger une scène faite par Michel. Donc ça donne ça. En termes de JavaScript, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, il faut une page HTML qui est assez simple, qui met en place un canvas. C'est là où on va rendre notre moteur 3D. Et ensuite, vous mettez un ensemble de propriétés CSS qui vont dire, bah, tu vas prendre tout l'écran, s'il te plaît. Ensuite, vous référencez notre librairie, comme je vous le disais. Et une fois que vous avez fait ça, tout se passe dans cette fonction-là, donc qui va être exécutée à la fin. Si WebGL est supporté par le navigateur, on va récupérer finalement les différents éléments qui nous intéressent. Et j'ai une méthode load qui va aller charger le fichier Babylon que j'ai drag and droppé tout à l'heure pour le charger. Et une fois qu'il aura terminé, ce que je lui dis, c'est que la caméra active, tu vas prendre le contrôle sur le canvas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader souris clavier comme dans un FPS. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle ma boucle de rendu. Dans un jeu vidéo, en fait, un jeu, on essaie de le rendre toutes les 16 millisecondes pour atteindre les 60 images secondes. Et c'est là où on va rajouter son code pour faire des calculs physiques, des trucs comme ça, ou la logique du jeu. Donc, si j'exécute tout ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes de code quand même, hein, mais on a quand même dû créer la sandbox. Alors, il n'y a pas d'instruction qui dit que la scène est en cours de chargement. Mais avec ça, je peux déjà me balader dans la scène. Je ne passe pas à travers les murs parce que la collision, est activée. Et je peux également monter là-haut à l'étage. Alors, le développeur à qui je bosse, il veut absolument que je fasse cette démo parce qu'apparemment, il a galéré à gérer l'escalier. Donc, on ne se rend pas forcément compte, mais ça, c'est un petit plaisir perso. Alors, comment on fait pour aller plus loin? Vous allez voir qu'on essaye au maximum de rendre les choses assez simples. Donc, si jamais maintenant, je veux ajouter une caméra qui se contrôle au tactile, eh ben, je vais l'appeler VJC pour Virtual Joystick Camera. Je vais faire newBabylon.virtualJoystickCamera. joystick caméra, ça porte plutôt bien son nom. Je lui donne un petit nom. Ensuite, il me dit que je dois le mettre à un endroit particulier. Donc, c'est à la position particulière. Position. Non, c'est active caméra. Donc, en fait, je veux remplacer la caméra active par une nouvelle. Et je vais la mettre dans ma scène. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je prenne exactement l'ancienne position de ma caméra. Donc ça, c'est déjà fait, mais également la rotation. Donc il faut que je prenne l'ancienne caméra de la scène, donc l'active caméra point rotation. Il faut que j'active les collisions, parce que sinon je vais passer à travers les objets. Donc c'est, je me souviens jamais, bon, c'est nous qui avons écrit le truc pourtant, mais c'est check collision. Et enable gravity, ou gravity quelque chose, apply gravity, voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien Visual Studio quand même. Et une fois que j'ai fait ça, ma caméra, une fois que je vais arriver ici, je vais remplacer la caméra active de la scène par celle que je viens de créer. En général, je me plante toujours. Hein. Donc je vérifie la position, ça a l'air pas mal. Je relance. Si, ça marche. Vous voyez, maintenant, en fait, j'ai remplacé la caméra par une caméra double joystick. Donc, ça tourne de cette manière-là. Alors ensuite, si on veut aller plus loin, on a lancé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un petit peu changé, on a lancé IE en dev channel, c'est-à-dire qu'on vous laisse regarder ce qu'on est en train d'implémenter dans notre navigateur. Alors, Firefox a Nightly, Chrome a aussi un dev channel. Donc, nous, vous pouvez le télécharger maintenant et voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et en fait, donc ça continue de fonctionner dans le même navigateur, bien sûr. Mais on a rajouté un truc qui est plutôt cool, là, récemment. Donc, si je transforme cette caméra par une qui s'appelle Gamepad Camera, que je me suis amusé à coder il y a peu de temps, et que je relance l'ensemble, je fais F5. Vous voyez, il me dit... Appuie sur le petit A pour activer la gamepad. Et là, j'ai une manette de Xbox One. Donc, j'appuie sur A et je peux me balader à la manette. Donc, j'ai un petit peu speedé. En fait, faut que je suis encore en train de tuner le truc parce que ça speed un peu. Mais voilà, on peut quand même faire des trucs assez sympas dans le navigateur. Alors, vous allez me dire, ça fait pas un jeu tout ça. C'est pour ça qu'en fait, on a bossé avec des gens qui savent faire des jeux. Donc, vous allez sur notre site web, babylonjs.com. Puis on était voir Ubisoft, on leur a dit « Est-ce que notre truc, il envoie suffisamment du bois? Est-ce que tu peux le tester ?» Et on a créé avec eux, basé sur la licence Assassin's Creed, un mini-jeu, qui est une démo technologique, mais pour montrer ce que ça donne. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a basculé dans Azure, parce qu'on savait que ça ferait du buzz. Donc c'est un mini-jeu où il va falloir... Ouf. Normalement, ça va vite. Donc, on va le lancer dans le nom alpha. Donc là, vous n'avez pas vu la séquence d'avant. Donc, on a bossé avec Ubisoft pour voir si notre moteur était suffisamment sympa. Et on s'est rendu compte qu'on avait des perfs de dingue, vous allez voir. Ah, voilà. Oui, c'est assez joli quand même. Donc, ils ont travaillé avec notre moteur, ils ont refait un shader quand même de flotte qui simule l'écume, etc. On peut rentrer à l'intérieur du bateau, c'est tout mimi. Et donc, le jeu, c'est un jeu assez simple, hein, où vous devez passer à travers des espèces de cercles, faire la course la plus rapide et partager votre score sur Facebook et essayer de chauffer vos copains. Un truc classique. Donc ça marche bien sûr sur tous les navigateurs. Mais on voulait montrer que techniquement, ça commençait à être sympa ce qu'on pouvait faire dans un navigateur en termes de performance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est assez simple d'utilisation. Vous pouvez faire vos propres jeux. Alors comme j'ai un timing contraint, j'enchaîne. Parce que je pourrais parler des heures, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous voyez, moi personnellement, je trouve ça cool. C'est normal, je l'écris. Et il y a un autre gars qui a trouvé ça cool, donc Hacker News. Je ne sais pas si vous connaissez Hacker News, interface minimaliste, mais quand il y a un mec qui a beaucoup de karma, qui parle de vous, ça fait exploser le trafic. Et en fait, on avait fait un événement ici chez Microsoft avec Samsung, Mozilla, plein de gens pour parler de notre moteur. Il y avait eu un petit pic et ensuite on était revenu à notre trafic classique. Et puis d'un seul coup, il y a ce gentil monsieur sur Hacker News qui dit, en gros en anglais, Babylon JS c'est de la balle. Enfin, je ne sais pas trop comment on le dit en anglais, mais tout le monde s'est jeté sur notre site web. Et en fait, on avait un petit hébergement à 30 euros chez Free. Et puis la machine a commencé à faire ouh, puis elle est morte. Et on s'était dit, bon, ça le fait pas parce qu'en fait, c'était jeudi. Et en fait, on devait lancer la grosse com en disant Assassin's Creed sur Babylon, c'est top, venez voir le site web. Bon, si le site web n'était pas là, on avait l'air un peu con. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut changer son hosting, passer un truc sérieux. Alors Benjamin Talmart, je sais pas, là, un truc d'homme, il m'aurait dit, un truc comme ça. En disant, ouais, il faut arrêter vos trucs, vous êtes gentils. Donc on a commencé par basculer tout dans Azure Website et Auth Scaling. Alors il faut savoir que moi, j'ai fait du bac, mais si je peux éviter d'en faire, je suis content. C'est-à-dire que je déteste gérer l'infrastructure. Et ce que j'aime faire, c'est du PaaS, du coup. Hein. Moi, je veux pas perdre du temps avec tous ces trucs de VM, je sais pas quoi. Donc, Azure Website, c'était génial pour moi. J'ai pris mon projet, j'ai balancé dans Website, puis ça marchait direct. Bon, plutôt bonne nouvelle. On a utilisé l'auto-scaling, parce qu'on s'était dit, bon, ce coup-ci, ce qui serait bien, c'est d'éviter de retomber dans les écueils que nous avons eus. Donc, c'est-à-dire que si jamais on a un nouveau pic, on va pouvoir facilement mettre de l'auto-scaling. Donc ça, j'imagine que vous l'avez déjà vu dans la journée. En tout cas, on a basculé dessus. Et on s'est dit, bon, on va rester modeste quand même. On est des petits small qu'on a mis sur entre 1 et 3. Et en fait, avec des caps de, si jamais je dépasse 80% de CPU, tu m'en instancies des nouvelles. Sinon, tu descends au fur et à mesure en dessous de 60. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais on s'était dit que comme toutes nos ressources sont sur nos serveurs, c'est des ressources statiques. En gros, c'est beaucoup d'images et de gros fichiers et notre géométrie. C'est un peu bête de laisser le serveur web servir tout ça. Puisqu'en fait, lui, en gros, il va donner le JS du moteur, quelques HTML et tout le reste va venir en fait des grosses assets. Donc les plus grosses scènes font 100 mégas. C'est le serveur web, il bosse pour rien. Donc on s'était dit, on va plutôt basculer tout ça sur le stockage blob storage. Donc pour ça, on a utilisé les trucs classiques, hein, Cloud Explorer. Voilà, donc on a mis toutes nos scènes dedans. Hop, je vais vous le montrer. Et l'idée, c'était en stockant tout ça sur un stockage qui est prévu pour, eh ben, le serveur IIS, finalement, des Azure Websites, il prend beaucoup moins de charges et il y a beaucoup moins de risques que ça scale au niveau des instances. Et donc nous, en fait, comme c'est un projet perso, c'est nous qui payons. Bah, on est vachement sensible en fait à cette notion de scaling et de bande passante, quoi. Je peux dire, j'ai été déstressé les mecs de l'équipe Azure en disant, tu promets que ça va pas scaler si je fais ça, ouais. Donc il m'a dit, t'es un couette, ça coûte pas cher, vas-y, fais confiance à papa, tout ça, on y était. Bon, pour l'instant c'est vrai, on s'est pas fait avoir, ça marche bien, ça nous coûte pas trop cher. Et donc on a mis tout le stockage là-dedans. Ensuite, comme on paye également la bande passante, on voulait absolument utiliser Gzip. Alors ça, il faut savoir que vous pouvez pas activer Gzip automatiquement sur du blob storage. Vous avez deux solutions. Soit vous gzippez directement votre contenu et vous le mettez dans Blob Storage. Et donc ça veut dire que potentiellement les navigateurs qui ne supportent pas Gzip pourront pas y accéder. Nous on s'est dit, si le mec il vient avec un navigateur qui supporte WebGL, il y a quand même très peu de chances qu'ils aient implémenté WebGL et pas Gzip. Mais si jamais vous voulez faire le fallback, il faudrait un petit front en amont qui check le support de Gzip. S'il n'y a pas Gzip, et ben vous le donnez la version non gzippée du contenu qui va vous coûter un peu plus cher en bande passante, sinon vous envoyez la version Gzip. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé tout le temps la version Gzip. Et en fait, pour le faire, il faut soit vous gzipper en local sur votre machine et vous l'envoyez, et ensuite il faut que dessus, vous mettez le header content encoding à Gzip, pour qu'il sache que c'est gzippé de l'autre côté. Et ensuite, ça va être transparent. Le navigateur, il va s'occuper de unzipper pour vous. Et la première option, bah, c'est de le faire à la mano. Je compresse à la main, je l'envoie, je set le header. Bon, ça a été vite chiant, en fait, hein. Donc, en fait, alors, au début, on m'avait dit, tu devrais écrire un petit programme en C# qui le fait. Et puis, j'ai commencé à faire à la main en faisant le feignasse. Puis, bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc, j'ai écrit un morceau de C# et j'ai écrit un petit article qu'on tweetera, si vous voulez, qui donne en gros ce qu'il faut faire en C#. Voilà, c'est un petit morceau de C# qui va se stocker avec le SDK Azure sur le storage, qui va gzipper avec le gzip stream et qui va l'envoyer directement en mettant le bon header. Et du coup, j'ai un petit programme en ligne de commande qui va prendre tous mes fichiers Babylon ou extension et qui va les balancer. Donc ça, c'est la première étape. Donc ça a bien fonctionné. Et la dernière étape, bah, c'est d'activer le CDN, parce que du coup, comme on stocke tout en Europe, mais qu'on a pas mal de gens qui viennent aux États-Unis, en Asie, etc., bah, en fait, ils étaient un peu défavorisés, donc on a activé le CDN, et du coup, on a eu une expérience globale assez sympa, et vous pouvez le voir ensuite en allant sur notre site. Si vous faites un F12, il vous reste un dernier truc à faire pour que ça marche. Vous allez le voir, donc je vais mettre ici les traces réseau. Je vais faire play. Je vais charger une scène. Toc. Et vous voyez en fait que ça part bien sur l'URL du CDN. Et vous voyez un truc qui est intéressant qui est CORS a bien été activé, donc Cross Origin Resource. Parce qu'en fait, comme tout est stocké sur un CDN ou un blob, et que mon serveur IIS tourne toujours sur le website, il y a un problème de cross-domaine. Et donc, il faut juste activer Core sur le blob storage. Pareil, il y a un jeu d'API pour le faire, où il y a des outils faciles à trouver que j'ai documenté sur mon blog. Vous prenez l'outil, vous connectez sur le storage et vous mettez en place votre règle CORS. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à nouveau, on est des radins. J'ai pas envie que n'importe qui puisse référencer mon giga de scène et se faire un deuxième serveur et en fait pomper toutes mes ressources avec ma carte bleue à moi, quoi. Donc, c'est pour éviter ça. Donc voilà, donc on était plutôt contents, ça marche plutôt bien. Donc après avoir été sceptique au début, bah depuis on n'a plus de soucis. Donc c'est vrai que c'est pratique de partir dans le cloud. Donc tout est documenté sur mon blog. Et je termine dans les temps puisque j'ai une demi-heure. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Et n'oubliez pas tout ça de remporter un undone avec nos spécialistes Azure le 3 juillet. Merci. Oui, une question? Comment Plutôt bien, ça, plutôt bien. Pour faire Oculus Rift, alors c'est une bonne question. Pour Oculus Rift, il y a une partie. Alors, je sais pas quelle est la partie la plus simple en fait. Bon, il y a deux parties compliquées. La première, c'est de faire un double rendu de la scène. Et le SDK d'Oculus documente ça. Donc, si je prends par exemple Retour vers le futur, donc ma machine, elle commence à être un peu légère pour ça, hein. Donc, on fait un double rendu de la scène, œil gauche, œil droit, en tenant compte de l'écartement des yeux pour finalement faire deux caméras qui sont légèrement décalées. Donc, ça, c'est pas spécialement complexe à comprendre, c'est un peu plus à coder. Ensuite, dans l'Oculus, il y a un système de lentilles. Je ne sais pas si vous l'avez regardé pour élargir le champ de vision. Donc, du coup, il faut faire un post-traitement pour faire cet effet un petit peu de bulle avec ce qu'on appelle un shader de post-process. Donc, ça, c'est la partie pure graphique. Ensuite, il y a deux solutions techniques possibles. Soit on fait un plugin au navigateur, ce que je voulais surtout pas, parce qu'en plus, ça me saoule de faire des plugins ailleurs, pour être sincère. Ce que je voulais faire, c'est plutôt un système qui s'appuie sur autre chose. C'est qu'on a un jeu d'API qui permet d'avoir les valeurs de l'accéléromètre. Et je me suis dit, en fait, le casque Oculus, il envoie quoi? Des informations sur X, Y, Z pour la rotation de la tête et les mouvements. Et un accéléromètre, il fait exactement la même chose. Donc, en fait, on a travaillé avec Eric, je ne sais pas s'il est là, Eric, qui fait les démonstrations, pour faire un driver qui s'occupe de prendre les informations de l'Oculus et les transformer en Device Orientation API, comme un accéléromètre. Comme ça, côté IE, il pense que c'est un accéléromètre qui lui parle et il n'a pas besoin finalement d'avoir un plugin. Bon, par contre, il faut un driver. Donc, bon, on a décalé le problème vers le driver. Et en testant ça, je me suis aperçu que la spécification Device Orientation APIs décrivait tous les mécanismes de fonctionnement, mais ne spécifiait pas forcément le repère. Et comme j'ai tout codé dans IE 11, alors c'est rare de coder dans IE comme navigateur principal, je le conçois, mais c'est ce qui m'est arrivé. Et quand j'ai testé dans Chrome après, ben, je me suis aperçu que leur repère n'était pas le même. Et du coup, ben, ce que moi, je considérais comme tête en avant, eux, ils avaient tête en haut, etc. Donc, il faudrait que je fasse une passe d'homogénéisation des informations pour que ça marche dans Chrome, mais c'est censé marcher dans Chrome. Et donc, si tu vas sur notre site web, à la fin, tu as écrit, hein, vous devez installer ce driver pour que ça marche, il faut utiliser IE, mais si tu vas voir le code source, si tu le modifies assez rapidement, ça marche dans Chrome, il suffit de remettre le repère dans le bon sens. C'était un peu long, mais je t'ai tout expliqué. Pas d'autres questions? Ben, je vous laisse sur la suite, puis je vous remercie.